Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Le Jour Où. Cette fois-ci, je donne la parole à Adeline, infirmière de formation, qui nous raconte un décès difficile vécu en service de salle de réveil. Bonjour Adeline.
Bonjour Marielle.
Comment tu vas?
Ça va, merci. Un peu stressée, mais ça va.
Ah, mais non, je suis sûre que ça va bien se passer.
Bon, j'espère.
C'est ce que je dis toujours, c'est intimidant pendant les premières secondes, et puis tu verras après, t'auras l'impression de discuter qu'une copine. Bon, t'auras un petit peu plus d'une copine qui t'écoute, mais... Ça va très bien se passer. Adeline, je t'invite aujourd'hui pour participer donc au deuxième épisode de cette nouvelle série que je viens de créer qui s'appelle Le Jour Où, qui va vraiment se focaliser sur un événement clé de ta carrière qui t'a marqué, que ça soit positivement, négativement, avec une notion de stress, peut-être de difficultés par la suite, peu importe, mais tu m'as envoyé ton témoignage sur Instagram et je l'ai trouvé très intéressant. Parce qu'il parle notamment de la gestion du stress et de la gestion des urgences vitales, qui est quelque chose qui est très présent dans le quotidien des soignants. Donc je te laisse déjà te présenter pour les personnes qui nous écoutent, et puis après tu peux embrayer avec ton anecdote. Enfin, c'est même pas une anecdote, c'est vraiment plutôt un témoignage, on va dire.
Ok, eh ben écoute, je m'appelle Adeline, j'ai 34 ans, je suis infirmière depuis 10 ans. Je travaille dans le sud de la France et ça fait 8 ans que je travaille en salle de réveil. Donc je vais te raconter, donc c'est pas une anecdote, c'est voilà, un témoignage sur quelque chose qui m'est arrivé, qui a marqué ma carrière. Pour récapituler...
Oui, c'est ça.
voilà, c'est ça, j'ai eu un doute. Donc en salle de réveil, en principe, on est 4 à 5 infirmières. Plus celle qui est de garde, qui commence un peu plus tard que les autres, mais du coup qui finit plus tard et qui à partir de 19h15 se retrouve toute seule. Donc ce jour-là, c'était mon cas, c'était moi qui étais de garde, j'étais arrivée à 9h. Je savais qu'il y avait une intervention qui allait traîner dans la soirée. Et donc à 19h15, ma dernière collègue me dit « Bah écoute Adeline, je m'en vais, je te laisse ». Je lui dis « Bah il n'y a pas de souci ». Donc je n'avais plus de patient en salle de réveil et je savais que cette patiente allait arriver dans l'heure. Donc c'était une dame qui venait pour une reprise de prothèse de hanche. Donc on enlève l'ancien matériel pour en remettre un nouveau, et c'était prévu que ce soit complexe. Donc effectivement, ça l'a été, et ça a duré 6 heures.
Oh là !
Voilà, donc ouais, vraiment complexe. Cette dame est arrivée en salle de réveil vers, je dirais, 20 heures. Voilà, ça arrive régulièrement qu'on se retrouve seul avec un patient le soir. Voilà, il n'y a pas de souci, on a l'habitude. Donc l'anesthésiste m'amène ma patiente, encore intubée, puisque c'est comme ça que ça se passe chez nous. Les patients arrivent intubés. Rapidement, elle commence à montrer des signes d'éveil. Donc, je dirais que dans les 10 minutes, je l'extube assez facilement. L'anesthésiste est à côté. Et puis, tout de suite, bien réveillée, tu vois. Autant, il y en a des fois, ils ont du mal à émerger. Mais elle, bien réveillée, tout de suite, elle me parle. L'anesthésiste vient la voir, me fait un petit peu les transmissions. Il me dit, écoute, si elle a mal, tu lui fais une titration de morphine. Donc, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en salle de réveil, la titration de morphine. Donc, c'est injecter des petites doses de morphine par voie intraveineuse pour calmer la douleur rapidement. Voilà. Puis, l'anesthésiste qui habite pas loin, il dit, écoute, je rentre. Je rentre chez moi. Je dis, pas de problème.
Ah oui, donc, vous n'aviez pas d'anesthésiste qui dormait sur place la nuit parce que ça nécessitait pas, dans cet établissement, d'avoir quelqu'un qui dorme la nuit.
Ceux qui habitent loin, ils dorment sur place dans la chambre de garde, mais ceux qui habitent dans la même ville, tu sais, c'est une petite ville, hein, ils sont là dans les 10 minutes, hein, donc ceux qui habitent au sein de la ville, ils rentrent chez eux. Voilà, c'est comme ça, c'est les habitudes. Donc, qui rentre chez lui, le chirurgien passe voir la patiente, lui dit que tout s'est bien passé, puis très très bien, hein, cette dame, tout de suite, on arrive à discuter. Ensuite, mes collègues de bloc passent me voir et me disent, écoute Adeline, on a fini, est-ce qu'on peut te laisser? Alors, bien sûr... Partez les filles, vous êtes arrivées avant moi ce matin, il est 20h30, rentrez vite chez vous. Puis les femmes de ménage, les ASH, partent aussi à leur tour. Donc je me retrouve à gérer cette patiente sans difficulté, comme d'habitude, en salle de réveil, toute seule. Voilà.
Ouais, jusque-là, un tableau assez classique.
Ça peut être un peu glauque de se retrouver toute seule au bloc la nuit, mais bon, voilà, on a l'habitude. Rapidement, elle me dit qu'elle a mal, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est une grosse intervention, ça a duré longtemps. Donc, je mets en place ma titration de morphine, je lui explique ce que je lui fais. Je commence à faire des petites doses toutes les 5 minutes, comme on a l'habitude. Et puis, je vois que la douleur passe pas. Je lui dis, vous inquiétez pas, madame, on continue jusqu'à ce que vous n'ayez plus mal. Et puis, quand ça ira, vous remonterez dans le service. Elle devait remonter au service de soins intensifs, puisque c'était une grosse opération, qu'elle était un petit peu âgée. Puis, elle alterne les phases de réveil, les phases de sommeil. Régulièrement, je viens la voir. Entre-temps, j'appelle mon conjoint pour lui dire, il est 9h, ne m'attends pas, j'espère que tu as mangé.
Je suis pas là de rentrer.
Voilà, je vais pas rentrer tout de suite, mais bon, voilà, je savais que dans une heure, j'allais rentrer chez moi, dans tous les cas. Donc, je continue ma titration de morphine, je vais la voir, je baisse un petit peu mes alarmes de mes scopes, parce que ça fait du bruit, je vois qu'elle veut se reposer. Puis, à un moment, elle me dit, mais j'ai mal sous la jambe, sous le mollet. Bon, côté opéré, j'y prête pas plus attention que ça. Après, on verra par la suite pourquoi ça aurait peut-être dû m'alerter à ce moment-là.
Ah ouais, c'est facile à dire avec du recul, mais c'est vrai que sur le coup, c'est pas quelque chose... oui, sur une intervention au niveau de la jambe, c'est vrai que...
Voilà, peut-être qu'il y en a qui comprennent où je veux en venir avec ce détail. Ensuite, j'appelle la manip radio de garde parce qu'elle avait une radio de contrôle. C'est le protocole, en fait. Il faut toujours une radio de contrôle après une prothèse. Et puis, le chirurgien de chez lui, il voit la radio. Donc, la manip radio vient, on tourne la patiente un peu dans tous les sens, tu sais, pour glisser la plaque sous l'hanche.
Sous la jambe, ouais.
Pour faire la radio, puis elle s'en va, voilà. Et puis, je parle à ma patiente pour réévaluer la douleur. Et puis, d'un coup, elle perd connaissance. Et elle se met à ronfler. Donc, je comprendrai plus tard que ce n'était pas un ronflement, que c'était un gasp, en fait, que c'est... Un gasp, c'est une sorte de respiration, mais qui n'est pas du tout une respiration, et puis qui annonce en fait le décès du patient. Hein. Mais sur le coup, moi, je me dis, elle se rendort. Parce que les patients en salle de réveil, ça arrive si on les extube un peu trop tôt, ils se rendorment. Donc là, on a des gestes que tu dois connaître, c'est-à-dire qu'on luxe un peu la mâchoire.
La mâchoire, oui.
On met une canule de Guédel, puis on met un peu d'oxygène, et puis ça revient. Là, je vois que la saturation commence à baisser.
Mais donc le taux d'oxygène dans le sang qui chute...
Le taux d'oxygène dans le sang baisse, mais reste à 80-85%, ce qui n'est pas non plus très alarmant, parce que quelqu'un qui se rendort, ça baisse beaucoup la saturation. Donc je fais mes gestes d'urgence, puis en même temps je me dis, je l'ai extubée, il y a un moment, c'est pas possible qu'elle se rendorme. Donc je comprends qu'il y a un problème, mais je fais quand même mes gestes d'urgence, ça change rien, puis je vois le pouls qui commence à baisser aussi.
Oh là là.
Voilà, qui reste à 50, 45, 40, 35. Mais c'est pas comme dans les films, tu sais, où sur ton scope, tu vas voir un tracé droit. Ça bip, hein, tu sais, c'est pas du tout comme ça.
Donc là, ça faut le dire, c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité.
Ah non, ça fait pas comme dans Grey's Anatomy, où tu vois le scope avec le tracé plat, où ça fait bip. Non, pas du tout. Donc là, je fais quelque chose que j'ai jamais fait dans toute ma carrière, c'est-à-dire que je l'appelle l'anesthésiste. Pour lui dire, écoute, j'ai un problème, la patiente est inconsciente, elle a perdu connaissance, je ne sais pas ce qui se passe, viens. Et lui, il ne cherche pas à savoir, il me dit, j'arrive. Tu vois, comme si lui aussi, il l'avait ressenti qu'il y avait un problème. Bon, en plus, c'est un anesthésiste que je connais bien, avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc il sait que si je l'appelle, ce n'est pas pour rien. Et là, je vois ma patiente qui se met à ouvrir les yeux, avec les pupilles complètement dilatées. Donc là, je comprends qu'en fait, elle est en train de me faire un arrêt cardiaque. Je sais pas pourquoi. Donc, dans ma tête, je me dis, je l'ai tué. C'est moi, j'ai injecté quelque chose qu'il fallait pas. Elle a fait une allergie à la morphine.
Ah, c'est la première chose à laquelle tu as pensé. C'était peut-être une erreur de médicament.
Ça a été tellement
quoi.
Soudain que moi, je me suis dit, c'est moi, je l'ai tué.
Ah là là.
Donc là, je regarde l'heure. Je vois, c'est 21h. Je sais qu'il n'y a plus personne. Que les urgences, donc on a un service d'urgence, mais ce sont des urgences de jour. Donc, je sais qu'il n'y a plus d'urgentiste sur la clinique, que mon anesthésiste est rentré chez lui.
Donc t'es toute seule quoi.
Je suis toute seule avec ma patiente en train de mourir. J'ai le réflexe à ce moment-là d'appeler une infirmière du service de nuit, de chirurgie. Je l'appelle et je lui dis, écoute, viens en salle de réveil, j'ai ma patiente qui fait un arrêt, je suis toute seule. Et donc elle arrive, elle me dit je descends. Donc effectivement dans la minute elle est là, elle vient. Et là je suis plus toute seule. Donc je reprends confiance en moi. Entre-temps,
non mais c'est vrai,
sorti,
t'as au moins, au moins deux paires de bras, quelqu'un qui peut agir pendant que l'autre réfléchit, prépare quelque chose. Enfin, tout
et
seul,
ça te redonne confiance.
Quoi.
Ça te redonne
complètement,
confiance.
Ouais, ouais.
Parce que je suis plus dans cet univers qui est glauque avec ma patiente en train de décéder et toute seule. Non, là, il y a quelqu'un qui arrive, qui vient m'aider. Donc, je lui fais une relève rapidement. Je lui dis, écoute, je sais pas ce qui se passe. On va attaquer une réanimation, un massage cardiaque, parce qu'elle est en arrêt. Et effectivement, on voit que le pouls baisse, mais c'est pas encore zéro. Entre-temps, avant qu'elle arrive, tu sais, on a des seringues d'urgence qui sont prêtes en salle de réveil, de l'atropine et de l'éphédrine. Donc pour relancer le cœur ou pour faire repartir aussi la tension. Donc j'ai fait mes seringues d'urgence, j'ai même pas cherché, j'ai tout fait, donc j'ai vu que ça avait rien changé. Je sors mon chariot d'urgence et puis on attaque le massage cardiaque, donc on se relaie. Je rappelle mon anesthésiste entre-temps en lui disant « Dépêche-toi, elle est en arrêt cardiaque ». Il me dit « Mais j'arrive, je suis sur le parking ».
Quelle angoisse.
On s'aide un petit peu toutes les deux, on se relaie. Je prépare ce qu'il faut pour intuber parce que je sais que l'anesthésiste va vouloir réintuber en arrivant, donc on a des petits kits qui sont tout prêts, donc j'ai juste à lui sortir. Il arrive en salle de réveil, mon anesthésiste, alors en civil, hein, il prend pas le temps de se changer, hein, tu vois.
J'imagine.
Il arrive en civil, je lui dis, écoute, elle s'est mise en arrêt, je sais pas ce qui s'est passé, il me dit, allez hop, on intube. Et appelle le cardiologue de garde. Donc, il réintube, en plus, difficilement, parce que c'était une patiente difficile à intuber. J'appelle le cardiologue de garde en expliquant vite fait, et il me dit, bah pareil, j'arrive. Entre-temps, on fait de l'adrénaline, on choque, on masse, voilà, je sais plus combien de temps il se passe, 5 minutes, 10 minutes,
ouais, la vraie réanimation, à fond, quoi.
Voilà, une réa, comme on a l'habitude, enfin, non, on n'a pas vraiment l'habitude d'en faire, mais bon, comme ça arrive, que tu peux connaître, toi, dans ton service.
Ouais, et puis pour lesquels on est formé, et puis pour lesquels on s'entraîne régulièrement, quoi. Ouais.
Exactement. Quand ça arrive en journée, chacun a plus ou moins sa tâche. Voilà, là, je suis avec cette infirmière que je ne connais pas, qui, c'est sa première réa, parce que j'apprends après qu'elle est toute jeune diplômée, en plus. Mais bon, elle est là et elle m'aide, tu vois. Elle a appelé le cardiologue de garde quand j'avais besoin.
Et puis c'est au moins une deuxième personne, ouais, une deuxième paire de bras, non, c'est certain.
Exactement.
Hein. Et c'est vrai qu'en journée, il faut l'expliquer, un contexte comme ça, c'est vrai qu'on se sépare bien les tâches, parce qu'on est nombreux, ou dans des équipes, voilà, même la nuit, mais qui sont plus fournies. Il peut y avoir quelqu'un qui masse, quelqu'un qui s'occupe de la ventilation, qui va aider l'anesthésiste à intuber, quelqu'un qui s'occupe des drogues, donc qui injecte les médicaments, quelqu'un qui s'occupe aussi au chronomètre. C'est quelque chose qu'on voit et qui est très utile, qui dit, voilà, on a commencé à masser à 20h50, à 20h55, on a fait le premier choc, à 21h02, on a injecté telle chose. Là, c'est toutes les tâches dans une ou deux personnes, c'est une autre gestion de l'urgence, quoi.
Et c'est vrai qu'en journée, ça se fait dans le calme, même si c'est une urgence, chacun a sa tâche et ça se fait dans le calme et c'est assez fluide. Là, voilà, je suis toute seule, je peux compter que sur moi, en fait. Hein. Donc le cardiologue arrive assez rapidement, regarde un peu le dossier, les antécédents, on lui explique, on lui fait une relève rapide. Et puis il nous dit, je reviens, je vais chercher mon échographe. Et donc il revient avec son échographe qui était au sein du bloc, donc dans la minute. Et il fait une écho au niveau du cœur. Et puis là, je les vois tous les deux se regarder, le cardiologue et l'anesthésiste. Ils disent, ah bon, ben voilà, il y a un morceau de boudin, ils l'ont dit comme ça, qui est parti dans le cœur. Donc voilà, ils ont voulu expliquer que cette patiente a fait une embolie pulmonaire massive, c'est-à-dire qu'un caillot, en fait, a migré dans la circulation pour se fixer sur l'artère pulmonaire, en fait. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit à ce moment-là au cardiologue, j'ai dit, mais tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait mal sous la jambe.
Donc, t'as tout de suite fait le lien avec cette douleur qu'elle avait.
J'ai tout de suite compris. Donc, il reprend son échographe, il fait une échographie sur le mollet, côté opéré, et il dit, oui, effectivement, le caillot est parti de là. Et le fait, finalement, je me dis peut-être qu'elle a eu sa radio de contrôle, qu'on l'ait tournée un peu dans tous les sens. Peut-être c'est ça qui a fait que le caillot est remonté. Après, alors moi, ce que je n'ai pas expliqué aussi, c'est qu'entre-temps, avant que l'anesthésiste arrive, je suis quand même allée chercher ma seringue de morphine pour voir si c'était bien de la morphine que j'avais injectée. Je ne m'étais pas trompée. J'ai vu que non, c'était bien de la morphine, que la date de péremption était bonne. Ensuite, je suis allée chercher ma dilution. Je me suis dit, mais mince, Adine, t'as peut-être dilué avec du potassium, tu sais pas. Donc, je suis fouillée dans la poubelle. Non, c'était bien du NaCl, j'avais
vidé. Tu as recontrôlé tout ce que tu avais injecté pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur.
Oui, mais bien sûr. Donc, c'est vrai que quand ils ont fait ce diagnostic, moi, ça m'a soulagée en même temps. Je me suis dit, ouf, j'y suis pour rien. Puis l'anesthésiste m'a dit, de toute façon, on n'aurait rien pu faire. Ça serait arrivé en journée, ça aurait été pareil. Il a dit, c'est un morceau de boudin qui est parti dans sa circulation. Effectivement, le caillot était énorme.
Ouais, moi, j'ai vécu ça sur, je pense, 3 patients dans ma carrière. Et l'issue a été la même. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le bilan, c'est on n'aurait rien pu faire.
C'est foudroyant.
C'est un décès qui est foudroyant, qui est tellement, tellement soudain. Et on peut masser tout ce qu'on veut. On peut être là. J'ai été là au moment où le caillot s'est formé. C'est pareil, on ne peut rien faire. Mais c'est très déstabilisant.
C'est ça. Ça aurait pu arriver le lendemain matin au premier lever où, paf, elle serait tombée
bien
comme
sûr,
une
bien
pierre.
Sûr. Ce caillot, il aurait été créé pendant l'intervention chirurgicale. Probablement résultante de cette opération, il serait venu se fixer dans le mollet, puis ensuite la circulation l'aurait renvoyé vers la circulation pulmonaire.
Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une dame qui avait des antécédents de phlébite post-opératoire. Ça, c'était connu. Donc, le chirurgien lui avait fait faire un Doppler veineux des membres inférieurs avant l'intervention. C'est-à-dire un examen pour voir qu'il n'y ait vraiment pas de caillots dans les mollets avant l'intervention. Et effectivement, c'était négatif, il n'y avait pas de caillots dans le mollet avant l'intervention.
En plus, elle avait été hyper bien bilantée, bien préparée.
Oui, bien sûr. Donc, ça s'est forcément créé pendant les 6 heures d'intervention, ce petit caillot. Et puis voilà, c'est remonté peut-être quand on l'a tourné pour la radio. On a essayé de thromboliser, c'est-à-dire de faire passer quelque chose qui fluidifie le sang pour dissoudre le caillot. Il l'a tenté quand même, le cardiologue, il m'a dit « Allez, on passe de l'héparine ». Voilà, on a continué à masser, mais au bout d'un moment, il a dit « Bon, je crois qu'il faut arrêter, hein, il faut se rendre à l'évidence ». Donc, ça s'est terminé par le décès de cette dame.
Qu'est-ce que tu as ressenti en premier, toi, de la culpabilité ?
Alors non, je t'avoue que j'ai ressenti, moi, du soulagement, parce que pendant presque toute la réa, moi, je me sentais coupable, en fait. Je me suis dit, je lui ai fait trop de morphine, peut-être Peut-être que voilà, elle s'est mise en apnée et du coup elle a fait un arrêt cardiaque. Non, moi sur le coup j'ai senti du soulagement. Puis bon, après j'ai versé ma petite larme, hein, j'avoue, parce que ça m'avait quand même brassée. Voilà, heureusement j'étais avec cette anesthésiste qui est super, qui a su me rassurer, même le chirurgien. Ça aurait pu arriver une demi-heure plus tard quand elle était remontée dans le service. Hein.
Exactement, dans la nuit, seule dans sa chambre, ouais, peu importe. Ouais.
Voilà, donc j'ai senti une forme de soulagement, mais bon, ce que je venais de vivre c'était quand même. Difficile, même si je suis infirmière, on voit pas ça tous les jours.
Puis on s'y habitue pas non plus, non, c'est certain. Voilà.
Et puis après, il a fallu qu'on fasse remonter cette dame dans le service où sa fille l'attendait.
Oh là là.
Donc le chirurgien et l'anesthésiste sont montés avant moi pour expliquer ce qui s'était passé. Et puis après, moi, j'étais avec cette infirmière de chirurgie qui avant était aide-soignante en plus, qui a eu des réflexes que je n'aurais peut-être pas eu. Elle m'a dit on va la faire un petit peu jolie avant qu'elle remonte. Donc on l'a recoiffée, on l'a fait jolie dans son lit, puis on l'a remontée. Et donc moi je suis quand même allée voir sa fille pour lui expliquer que c'était moi qui étais là quand sa maman a rendu son dernier souffle, que ça avait été très rapide et qu'elle n'avait pas souffert. Ça me tenait à cœur de lui dire que ça s'était passé rapidement et sans souffrance pour elle en tout cas. Donc elle m'a remerciée, elle m'a dit je savais qu'il y avait des risques. Vu son âge, vu l'intervention, voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui n'était pas du tout dans la colère. Mais ça a été dur. Je suis rentrée chez moi après, c'était peut-être 23 heures. Il fallait que je trouve le sommeil. C'était compliqué. En plus, le lendemain, je ne travaillais pas. Donc, ça a vite fait le tour du bloc le lendemain où tout le monde disait « Mais la pauvre Adeline, elle était toute seule. Comment elle a fait? Ça a dû être dur. » Voilà, mon chef m'a appelé pour savoir comment ça allait. Non, j'ai tout le monde a été très gentil avec moi et j'ai eu aucun reproche sur la prise en charge.
Mais moi, j'ai senti soutenue aussi.
Oui, voilà, complètement. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait et qu'effectivement, on n'aurait rien pu faire de plus. Mais c'est quand même un petit peu traumatisant quand ça arrive que tu es toute seule, qu'il fait nuit, que c'est l'hiver et
ouais,
que ça
se
termine mal.
Hein.
Voilà, et que ça se termine mal en plus. Donc ça fait partie de ma carrière professionnelle. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Ça n'a pas changé ma façon de travailler. Je fais toujours des gardes. Je me retrouve toujours des fois seule le soir avec un patient. Et c'est pas pour ça que j'ai peur.
Il n'y a pas plus d'appréhension, quoi. Depuis ça, ça t'a pas empêché d'exercer, de continuer à exercer sereinement.
Non, j'ai pas dit oulala, j'arrête, ça m'a traumatisée. Non, je continue. Je sais que ça fait partie des risques.
Ça pourrait, parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, vivent le décès de trop, la réanimation de trop, et qui disent non, mais ça, je peux plus le vivre, je veux plus le vivre, quoi.
Nous, on a de la chance de pas avoir de grosses interventions, donc c'est quelque chose qui est rare dans où je travaille, dans mon service. Ça arrive pas souvent. Alors après, ce qui a changé, c'est que depuis, on fait passer les grosses interventions en début de programme pour que ça se termine plus tôt et pas tard le soir quand il n'y a plus personne. Donc ça a été mis en place depuis. Heureusement, c'est jamais re-arrivé, mais voilà, ça a quand même fait un petit peu bouger les choses.
Ça a fait changer des choses, ouais.
Voilà, c'est une expérience qui marque une carrière.
Alors,
maintenant, ce que je fais, par contre, quand je m'occupe d'un patient qui me dit qu'il a mal, je vérifie toujours les mollets. Voilà, je regarde que le mollet soit pas dur, soit pas chaud. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Pourtant, c'était il y a 4 ans, je crois, 3 ans. Mais voilà.
Non, mais ça t'a marqué. Hein.
Voilà, je continue. Quelqu'un qui me dit qu'il a mal, même si c'est une prothèse de hanche, de genou, je vous avais mal où, je regarde vos mollets, est-ce que ça vous fait mal? Non, c'est bon.
Oui, mais j'ai des chirurgiens avec lesquels je travaille qui posent des questions à leurs patients après l'intervention, puis à chaque fois je me dis, mais elle est marrante cette question, je vois pas trop où ça veut en venir. Et à chaque fois je me dis, il doit y avoir une raison, un peu comme ce que t'as vécu. Une fois, un patient qui a eu un souci, puis après ça leur reste, puis je pense que ça te marque à vie, puis que ça modifie ta façon de travailler derrière.
Complètement.
Oui, tu vois, c'est la preuve. Est-ce que tu as eu un soutien psychologique derrière, peut-être, qui a été offert de la part de ton établissement?
On a une psychologue sur place, qui est plus pour les patients, mais bon, elle vient nous voir une fois par semaine au bloc. Je lui en ai parlé, alors elle était étonnée parce qu'elle n'avait pas du tout eu vent de l'histoire, donc elle m'a dit on aurait pu me le dire. Oh. Mais moi, j'en ai quand même parlé parce que j'avais besoin. Elle m'a écoutée, elle m'a aidée. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi fait du bien de parler à mes collègues, surtout mes collègues anciennes infirmières qui avaient plus de bouteilles que moi, qui m'ont dit... Qui avaient aussi vécu des choses un peu compliquées et voilà, qui m'ont expliqué que ça faisait partie maintenant de ma carrière et qu'il fallait que je passe à autre chose parce qu'il fallait continuer à avancer. Et voilà. Mais oui, j'ai quand même pu parler à la psychologue.
Heureusement.
Elle m'a écoutée, voilà, elle m'a dit que voilà, pareil, j'avais fait ce qu'il fallait faire.
Mais c'est bien de pouvoir refermer le chapitre aussi. Enfin, moi, j'ai eu une expérience assez... similaire à la tienne, et j'ai refusé le soutien psychologique en me disant que j'allais me ressasser et que j'avais envie de fermer le chapitre et de passer à autre chose. Et en fait, je ne l'ai jamais fermé à cause, à cause du fait de ne jamais avoir rencontré cette psychologue. Et je crois que je le regrette un peu au fond de moi. Donc, il faut savoir se faire aider, ou en tout cas accepter une aide extérieure, et puis ça fait du bien. Et c'est pas parce que l'histoire semble claire dans notre esprit qu'on n'a pas besoin d'en parler avec quelqu'un puis d'avoir un peu de soutien, donc c'est bien ça. Que tu l'aies fait, je pense.
Après, ça dépend des caractères, c'est propre à chacun. Moi, je sais que j'ai besoin de parler parce que sinon j'emmagasine et je suis pas bien, donc ça m'a fait du bien d'en parler autour de moi, même à mon conjoint. En arrivant le soir à la maison, je me suis effondrée puis j'ai tout expliqué, hein.
Ouais, c'est lourd, hein, c'est lourd vraiment comme vécu. Ouais, heureusement que tu as été soutenue. Un grand merci, Adeline, pour ce partage d'expérience. Alors, ça sera pas l'épisode le plus gai, hein, mais j'avais très envie qu'on parle aussi de la réalité du terrain, et puis de ces périodes de stress, et puis de ces histoires qui se finissent pas toujours bien, mais ça fait partie aussi du quotidien des soignants. Donc, merci d'avoir mis des mots
avec
sur tout
plaisir.
Ça. Et puis, vous ne le voyez pas parce que c'est un podcast audio, mais Adeline attend un heureux événement pour...
Oui. Pour dans un mois.
Pour dans un mois, j'allais dire dans quelques semaines. Mais ouais, ça se rapproche bien de nous. Et puis, on te souhaite du coup plein de bonheur pour la suite, Adeline.
Merci beaucoup, Marielle.
À bientôt.
Au revoir.
La réanimation d'un patient qui aboutit malheureusement parfois à son décès représente un moment marquant de la vie d'un soignant. Le témoignage d'Adeline en est la preuve, et je la remercie encore d'avoir parlé de ce moment si douloureux vécu lors de sa carrière d'infirmière. Si vous pensez que votre histoire a sa place ici, je vous invite à m'écrire par mail. L'adresse est à retrouver en description de cet épisode. Le podcast prend quelques semaines de vacances et je vous donne donc rendez-vous ici, à la rentrée, avec toujours plus de portraits inspirants et inspirés. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.